méconnaissable. Il ne bouge plus. Je sursaute quand la jeune fille me dit cela. Je ne l'avais pas entendu arriver. Je somnolais, assise sur le fauteuil de bureau. Je lui réponds qu'il dort, d'un sourire qui se veut rassurant. « Il va dormir longtemps ?» me demande-t-elle. « Quelques heures. Il aura probablement un semblant de réveil dans la nuit. » Je parle en jour. « Non, les médecins vont bientôt réduire la sédation. »
« La sédation ?»
Les médicaments pour qu'il dorme, à cause de la douleur.
« Il a mal ?»
Probablement. Il nous le dira mieux quand il sera réveillé.
Il va vraiment se réveiller?
Nous allons faire en sorte que oui.
Je pourrais revenir?
Bien sûr.
Vous voulez un macaron?
Je lui propose en lui tendant la boîte.
Non, merci, j'ai pas faim. Et puis, son chef m'attend.
Vos parents ne sont pas venus?
On n'a pas de parents. C'est Roméo qui s'occupe de moi.
Elle marque un temps d'arrêt.
Il va remarcher?
C'est trop tôt pour se prononcer.
Ne soyez pas trop pressé. Il en a pour un moment, vous savez. Il va falloir vous organiser, car il ne rentrera pas tout de suite à la maison. Vous avez une solution?
Je vais voir.
Mais je veux dire, c'est grave ce qu'il a?
Oui, je ne vais pas vous dire qu'il n'a rien. C'est grave, mais ça aurait pu être plus grave.
Il aurait vraiment pu mourir?
En tombant du 8e étage, oui. Ce sont les arbres qui l'ont sauvé.
Et... il ressemble plus à rien, là. Ça aussi, ça va revenir?
Oui. La peau cicatrise, désenfle, redevient rose après les hématomes. Il aura sûrement quelques cicatrices, mais il retrouvera ses traits.
Vous avez une photo de lui?
Oui, dans mon cahier de texte.
Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien la voir.
Si vous me la rendez.
Évidemment.
Elle farfouille dans son sac à dos mal rangé, ouvre son cahier, sort la photo et me la tend en tremblant, les lèvres serrées. Elle rattrape elle aussi ses émotions comme elle peut. Je regarde le cliché attentivement. C'est vrai qu'il est méconnaissable. Je comprends l'affolement de la jeune fille. Il la tient contre lui, ses bras autour d'elle. Il sourit au photographe. Pas très grand, mais robuste et musclé. Il inspire la confiance. Sa sœur semble toute frêle au creux de lui. Il a le front large, de grands yeux, des sourcils peu apparents. Il a dû être blond quand il était gosse. La mâchoire carrée et le cou incroyablement large. Les cheveux très courts du militaire. Il a un magnifique sourire. On le sent heureux sur la photo. Le contraste est d'autant plus saisissant pour moi. Je vous promets qu'il va redevenir comme ça, lui dis-je avec certitude. De certitude, je n'en ai aucune. Mais on peut bien arranger un peu la vérité quand elle est trop moche. Et puis qui sait, il va peut-être vraiment retrouver ses traits comme sur la photo. Il vaut mieux que sa sœur s'accroche à cet espoir qu'à la tristesse d'imaginer le contraire.
On peut faire quoi pour l'aider?
De mon côté, faire mon travail du mieux que je peux. Du vôtre, être là pour le rassurer. Ce n'est pas facile pour lui.
Je peux revenir quand?
Quand vous voulez.
Il n'y a pas d'horaire?
Pas pour vous. Et puis, elle part sans rien dire, aussi discrètement qu'elle est entrée dans le bureau, aussi silencieusement qu'elle est restée auprès de son frère. On dirait qu'elle ne touche pas le sol quand elle se déplace. Je ne sais pas si cette adolescente est d'un tempérament discret ou si c'est l'état de choc, mais elle frôle les murs, comme si elle voulait les garder à proximité de peur de tomber. J'en ai mal au cœur. Guillaume, lui aussi, a observé sa démarche fragile avant de nous regarder droit dans les yeux, mon désarroi et moi.
« Tu veux faire quoi de plus? T'es pas responsable de l'accident. »
« Ça me fait de la peine quand même. »
Ça changera rien à la situation que tu aies de la peine.
Elle est toute jeune, elle n'a que lui.
Prends-la chez toi, alors.
Tu connais Laurent.
Tu as une autre solution?
Je suppose que quelqu'un en trouvera une pour elle.
Alors, ça ne t'appartient plus.
Arrête de te faire du mouron.
Pour son frère, fais ton boulot et vibre pour des choses positives. C'est pas bon, le mouron.
Tu as raison.
J'ai toujours raison.
Je le laisse y croire.
Mais Guillaume est bourré de contradictions.
Ça l'arrange de penser qu'il a toujours raison, qu'il prend le bon chemin. Même si le chemin ne mène pas toujours où il veut, au moins, il avance.
Cher toi, tu fais partie des quelques affaires que j'ai vite bourrées dans un sac avant de quitter l'appart. Heureusement que t'es là, sinon je me sentirais trop seule ce soir. J'ai appelé Charlotte, mais à part me dire que si j'ai besoin d'elle, je peux la joindre quand je veux, elle ne peut pas faire grand-chose pour moi.
Merde, putain, mon frère! Je sais que c'était lui parce que j'ai vu le tatouage sur son épaule.
Un V avec trois petites fleurs autour. V pour Vanessa. Il l'a fait faire il y a 2 ans quand on s'est engueulé et que je doutais de lui, que j'avais peur qu'il parte et qu'il m'oublie. Mais pour le reste, on aurait pu me vendre n'importe quel type. « Bonjour, mademoiselle, voici votre frère. » Qu'ils auraient pu me dire en m'installant devant cette momie boursouflée. Vive les tatouages. Peut-être qu'après ça, il sera enfin d'accord pour que je m'en fasse faire un. C'est vrai, quoi, ça peut servir des fois qu'un jour je sois dans le même état. Son chef, que je vois une fois par an à la fête de Noël de la caserne, m'attendait à la sortie du collège. Il était en tenue de pompier. Mes copines se sont demandé ce qui se passait. J'ai reçu au moins 12 SMS pendant qu'il m'expliquait qu'il m'emmenait à l'hôpital parce que Roméo avait eu un accident. C'est pour ça qu'il n'a pas appelé hier soir. Pendant que mon frère était à l'hôpital entre la vie et la mort, moi, je bouffais tranquillement mes chips devant Grey's Anatomy. Font chier, ils auraient pu m'appeler. Enfin, je peux pas non plus leur en vouloir. Ils devaient avoir d'autres chats à fouetter à l'hôpital que de me prévenir. Monsieur Klein ne m'a rien dit d'autre à propos de Roméo. Il ne l'avait pas revu non plus depuis l'accident. Sur le trajet pour l'hôpital, il m'a expliqué que j'allais vivre un peu chez eux, le temps que Roméo soit sur pied, que ça m'éviterait d'aller dans un foyer. De toute façon, je n'y serais pas allée, plutôt crevée. Quand nous sommes arrivés dans le service, j'ai eu envie de partir en courant. Une odeur trop bizarre, des bips dans tous les sens et des malades qui ne bougent pas dans leur lit. J'ai suivi l'infirmière, et quand je me suis retrouvée devant mon frère, j'ai eu envie de pleurer. Mais rien ne venait. 3000 choses sont passées dans ma tête pendant un moment. Mais une seule revenait tout le temps. Et s'il meurt? Et s'il meurt? Je ferais quoi, moi, s'il mourait? Je mourrais avec lui. À quoi bon rester, de toute façon? Pour retourner dans un de ces foyers pourris où il faut obéir à des gens qui ne vous aiment pas? Je suis restée à côté de lui et je n'ai rien dit. J'ai juste pensé très fort qu'il devait vivre. Je me suis dit que si je ne pensais qu'à ça et à rien d'autre, il l'entendrait sûrement. Il voulait peut-être que je lui parle. Et moi, je n'avais qu'une chose à lui dire. Débrouille-toi, mais ne meurs pas.